Bon, alors le paradoxe, si vous voulez, c'est que Abraham est considéré par Hachem comme malade, et que pour alléger les choses, Hachem va faire en sorte que Abraham n'ait pas de visiteurs. Parce que quand il a des visiteurs, il travaille beaucoup pour les servir, etc. Donc Hachem fait en sorte qu'il n'ait pas de visiteurs. Comment il le fait? Comme le passouk dit, c'est chomayom, c'est-à-dire il fait spécialement chaud. Hachem a fait en sorte que il fait tellement chaud que c'est tellement chaud qu'on ne peut pas mettre un passant dehors. Donc il n'y a pas un chat. C'est le 15 août à Paris, il n'y a pas un chat. Personne n'est là. Et donc comme ça, tranquille, Abraham, il devrait pouvoir se reposer. Mais c'est pas le style d'Abraham. Et au lieu de se reposer tranquillement, non, il est assis à la porte de sa tente, au lieu d'être chez lui dans l'obscurité, etc. Il est à la porte de la tente et il regarde s'il y a quelqu'un qui va passer et personne ne passe. Et donc il lève Mitztaer, il souffre, il n'y a pas. Alors Hachem est obligé, presque on dit, de changer de stratégie, quoi. Donc Hachem va planter trois personnages. Bon, c'est alors le texte dit bien qu'ils sont plantés parce que dit Vaïssa et Nav. Finalement, il a levé les yeux. Vayar vehine, et voici. Voici, ça veut dire, comme toujours, voici, ça veut c'est quelque chose qu'on n'attendait pas. D'accord? On s'attendait pas parce qu'il fait tellement chaud, il n'y a personne, normalement, et tout à coup, ils sont là. OK. Donc maintenant, c'est quoi la situation? Vous avez Avraham Avinu qui a une visite, qui est là pour lui faire du cours pour lui. Le visiteur en question, si on peut parler comme ça, c'est Hachem. D'accord? Donc là, Hachem est en train de prendre de ses nouvelles, etc. Et lui, même pas. C'est un peu compliqué parce que on a l'impression que il est à la porte. Il n'a même pas fait entrer Hachem, ou bien Hachem est entré et lui, il est à la porte. Il lui tourne le dos. Pardon?
Il y avait Sarah.
Il peut pas être avec Sarah. Sarah, elle est derrière. Elle est à la cuisine. Et donc, c'est un peu paradoxal. Alors du coup, ça devient complètement spécial, parce que quand il a vu les trois personnes, avant, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il court dans la direction de ces gens-là. Là-bas, il se prosterne devant eux, on peut presque dire, il leur casse les pieds jusqu'à ce qu'ils viennent chez lui. Oui, ils avaient besoin de rien, ils passaient leur chemin. Enfin bon, ils étaient là pour Abraham, en vérité, mais donc ça se présente comme si il y a trois personnes là qui sont en chemin, qui sont pas en train de venir chez lui, ils sont pas, d'accord, il y a trois Arabes qui sont dans la nature là, et là, il va les supplier, etc., de venir manger un petit morceau chez lui. Alors c'est toujours un peu étonnant, si vous voulez, il a laissé tomber, si on peut parler comme ça, la visite d'Hachem, il est allé s'occuper de trois Arabes. Mais alors vous me direz, ça m'a l'air, c'est une croûte pas possible, non? Vous voyez, là, vous recevez quelqu'un de très très important, et puis vous voyez qu'il y a éventuellement deux personnes qui viennent vous voir, qui viennent même pas vous voir, mais vous avez bien envie de... Voilà, je sais pas quoi, de faire venir chez vous et vous allez laisser tomber. C'est pas vrai, vous n'avez pas bougé. Vous n'oserez pas faire ça. Mais néanmoins, c'est écrit que Gdolah Nasatochim, on apprend une leçon là. Gdolah Nasatochim Me'agbalat. C'est-à-dire, Ahnasatochim, faire entrer des gens, c'est-à-dire, ça s'appelle Gmilut Chassadim, c'est de la générosité, c'est de l'hospitalité. La générosité qui s'exprime par l'hospitalité, c'est plus grand que la visite, que de se trouver devant la présence divine. C'est une expérience plus grande encore que de se trouver devant la présence divine. Et la priorité, c'est ce qu'Abraham a fait. C'est-à-dire, nous prenons modèle sur Abraham, même si nous, je sais pas ce que vous en pensez, moi, c'était pas, j'aurais pas été obligatoirement très admiratif de la façon dont dont Abraham traite Hachem. Je veux dire, quand il le reçoit, il est venu le voir, etc. Et puis, en fait, il le laisse en plan, quoi. Après, il va lui demander, surtout, t'en vas pas, etc. Mais il s'en va, il est parti. Abraham est parti, allé là-bas. Et puis ça va durer un bout de temps, hein, parce que il va leur dire de venir. Finalement, ils vont venir et il va pas leur donner un petit bout de pain comme il avait dit, etc. Il va faire un festin. Il va falloir tuer des animaux parce qu'il veut donner à chacun une langue. D'accord. Bon, ça, je sais pas non plus. C'est un menu unique. Il leur a pas demandé ce qu'ils voulaient manger. D'accord, ouais, mais peut-être qu'ils aiment pas la langue. Il y a des gens qui aiment pas la langue. Donc pourquoi il leur sert obligatoirement une langue et... C'est un peu étonnant, quoi. C'est considéré comme, alors évidemment, ça veut dire que pour toi, on a tué un animal entier. Parce qu'avoir une langue, c'est difficile de... Et donc, ça montre combien je me décarcasse pour toi, etc. Je n'y attendais pas, vraiment. Moi, je sais pas. J'aurais jamais, intuitivement, je n'aurais pas dit comme ça. Il faut arriver à comprendre ce que c'est que Milut Hasadim, ce que c'est que Aknasat Orchim, quoi. Aknasat Orchim, c'est faire entrer, enfin, recevoir des gens, les recevoir, les nourrir, le cas échéant, alors qu'ils n'ont besoin de rien, a priori. Ces gens-là, ils avaient certainement un pique-nique dans leur sac à dos. Donc, pourquoi ouais, il leur a dit, venez manger un petit truc. Et en plus, quand il leur dit, venez manger une petite chose, c'est pas très généreux, quoi. Si déjà tu les fais venir, et venez vous restaurer, je sais pas, quelque chose de... Non, il fait... Alors, on va apprendre que les tzadikim, ils disent peu, ils font beaucoup. Et les rechaim, ils disent beaucoup, ou ils font très peu. Ou ils font rien. Bon. C'est juste. C'est ça le commencement de la paracha. Toute la paracha est une paracha qui est consacrée à Gmilut Chassadim, en vérité. C'est ça le thème. Et Gmilut Chassadim, ça fait partie des Dvarim Shein Lahem Shiur, des choses qui n'ont pas de... A priori, on ne peut pas dire ça suffit, quoi. Et bon, c'est quelque chose de très important. Dis tous les matins que c'est très important. Et c'est plus important même que de recevoir la présence divine. Bien, alors en vérité, alors ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, d'après le, non, ben ces gens-là, d'après le programme, ils n'étaient pas prévus au programme. Et voilà tout à coup que, en fait, ce sont pas des Arabes, ce sont des anges, et dont chacun a une fonction. Il a une tâche. Il y en a un qui vient pour soigner. Et on connaît, la Gemara, elle donne leur nom, c'est Michaël, Gabriel, Raphaël et Gabriel. Raphaël, il vient pour guérir Abraham de la Mila. Michaël, il vient pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un fils. Et Gabriel, il vient pour détruire Sodome. La question qui se pose d'ailleurs, c'est pourquoi Gabriel vient chez Abraham? Annoncer à Sarah pour guérir Abraham, il faut bien qu'il vienne chez lui. Mais pourquoi le troisième qui vient détruire Sodome, pourquoi il passe chez Abraham là? Pas de raison, absolument aucune raison. Ça, il faudra aussi essayer d'expliquer. Alors, il y a une explication que j'ai entendue récemment, qui vient, je crois, du premier rébé de Belz, qui a dit la chose suivante. Il a dit, les anges, en fait, ce sont trois anges, les anges, quand ils sont en haut, ils ne fautent jamais, ils ne peuvent pas, ils ne fautent pas. Mais quand ils descendent sur terre, ils fautent. On sait bien que c'est marqué au début de la paracha, à la fin de Bereshit, là-bas, c'est dit que c'est que quand ils ont vu les filles de l'homme, les anges, là, il y en a un qui s'appelle un c'est Azazel, et l'autre c'est Uzza, je crois, et ils ont fauté avec les filles, hein, ils ont eu des rapports avec les filles en question. Ils ont fauté, du coup, Hachem leur a pas permis de remonter. Et c'est ça, Azazel, c'est quand on dit qu'à Kippour, on envoie le deuxième bouc, là, on l'envoie à Azazel, c'est là-bas. Alors, ils ont une fonction, mais c'était pas prévu. C'est-à-dire que si on veut regarder les choses, il faut dire, c'est parce qu'Abraham voulait à tout prix enfin des gens auxquels il va pouvoir donner, il va pouvoir les recevoir, leur donner, et en fait, il fait tout ça pour répandre, faire connaître le nom d'Hachem. C'est ça que fait Abraham. C'est pour ça que c'est très important. Mais, ok, s'il n'avait pas voulu à toute force les avoir, il n'aurait pas eu. Qu'est-ce qu'il y a? Ces anges ne seraient pas venus? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que c'est comme si c'était Abraham qui avait induit la fonction, la tâche que les anges vont faire. C'est-à-dire comme si Abraham n'avait pas demandé absolument, enfin, demandé, il a souffert, et du coup Hachem lui a envoyé ces trois personnes, qui en fait sont les anges, qui ont chacun qui sont chargés de quelque chose. Mais donc ça veut dire quelque part que il y a un travail d'Abraham qui génère quasiment c'est parce qu'il a ce désir de Arnasat Orim qu'il y a un malheur qui vient s'occuper de le guérir, et qu'il y a un malheur qui vient annoncer à Sarah qu'elle va avoir un enfant. Alors, en réalité, il y avait déjà ça dans l'histoire du Bikur Cholim. C'est-à-dire, il y a une vision, enfin, Hachem se dévoile à lui dans le cadre de sa visite au malade parce qu'il a fait la Mila. Donc, c'est d'avoir fait la Mila, de s'être donc mis en état où il est malade, et donc Hachem va pouvoir lui rendre visite. C'est comme s'il s'était qualifié pour recevoir la visite d'Hachem. Et de la même manière, grâce à son désir de d'Achnasat Orim, il se qualifie pour que Hachem se préoccupe particulièrement de lui en lui envoyant un malheur pour le guérir, et que quelque part, il mérite l'annonce. Bien sûr, ça lui a été dit avant qu'il aurait un enfant avec Sarah, mais quelque part, il y est pour quelque chose. Il vient de se qualifier pour qu'un malheur vienne lui annoncer à lui et à Sarah qu'ils vont avoir un enfant. Voilà, ça y est, c'est maintenant ça se réalise. C'était une promesse, je sais pas quand elle pourrait se réaliser, rien du tout. Et maintenant, elle va se réaliser grâce au fait qu'il voulait avoir des gens. Et du coup, ces gens qu'Hachem lui a envoyés, ce sont les malachim qui, eux, sont porteurs de la nouvelle extraordinaire et de la guérison.
Et si c'était pas le Raphaël, c'est quoi? Il aurait souffert ou il n'aurait pas
Oui,
souffert?
il aurait guéri comme tout le monde. Visiblement, il a eu une guérison express par le malard qui est venu le guérir.
Mais sa vie n'était pas en jeu.
Non, a priori, il n'a pas de raison de penser ça. Hachem lui a demandé de faire la Mila, il ne lui a pas dit de se suicider. Alors, je me suis arrêté dans l'explication de qu'est-ce que fait. Ah ouais, alors les malachim, que je vous ai dit, quand ils sont en bas, ils fautent. Et du coup, quand Hachem décide d'envoyer des malachim, il les envoie en bas, donc il les mène dans une situation où ils peuvent fauter. Et en tout, en particulier, lequel est le plus exposé? C'est celui qui doit aller détruire Sodome, parce qu'il va entrer dans l'ambiance de Sodome et peut-être qu'il va être influencé par Sodome. Alors qu'est-ce qu'Hachem fait? Il l'envoie ses malachim chez Abraham. Alors, il va manger chez Abraham. Manger chez Abraham, c'est entrer dans un processus de consommation de kedusha. D'accord? Et du coup, ça leur donne un coup de pouce pour ne pas se casser la figure. Et donc, si on dit ça, on comprend pourquoi Gabriel est allé chez Abraham Avinu. Il est allé pour pouvoir emmagasiner, si vous voulez, de l'énergie qui va lui permettre de ne pas être influencé par Sodome. Sinon, tout malheur qu'il est, les malachim d'en bas, ils sont influençables, ils pourraient éventuellement être influencés par Sodome.
Aussi pour sauver Lot, aussi pour sauver Lot, s'il n'était pas passé par Abraham.
Non, alors, le mérite de. Alors, en fait, quand le malheur va aller pour détruire Sodome, la vérité, ils sont deux. On voit qu'ils sont deux. Et on ne sait pas qui l'a accompagné. Est-ce que c'est Raphaël qui est allé avec lui ou est-ce que c'est Michaël qui est allé avec lui? Celui qui vient pour détruire, c'est visiblement, quand ils arrivent chez l'autre, ils sont deux. Il y a deux malachim, pas trois, mais deux. Donc il y en a un qui est rentré chez lui, rentré, et il y en a un autre qui a accompagné Gabriel. Bon, je ne sais pas, donc, à la limite, est-ce qu'il fallait quelqu'un qui, un soignant, ou est-ce qu'il fallait plutôt quelqu'un qui pourrait annoncer des bonnes nouvelles, je sais pas. Je sais pas ce que ça voudrait dire, selon que l'accompagnateur c'est Raphaël ou bien Michaël, c'est pas la même chose. Et donc, quand ils vont pour sauver Lot, c'est marqué que Lot est sauvé par le mérite d'Abraham. Donc ça, c'est une nouvelle chose aussi, que le mérite peut fonctionner pour quelqu'un d'autre. Le mérite d'Abraham fonctionne pour Lot. Mais plutôt pourquoi? Comment c'est possible? Que le mérite de quelqu'un fonctionne pour lui ou éventuellement pour son enfant, etc. On peut comprendre. Mais que le mérite de l'un fonctionne pour l'autre. Alors c'est vrai que Lot, c'est pas n'importe qui pour Abraham, mais c'est pas son fils, c'est pas une prolongation de lui. Donc là, on voit que ça marche.
Quelque part, c'est la seule prolongation de vie. Voilà.
Oui, mais ce n'est pas une prolongation.
Je
Il
connais
n'est
pas.
pas son héritier. Hachem a déjà dit qu'il ne sera pas son héritier. Non, Hachem lui a déjà dit, c'est pour toi. Et d'ailleurs, lui-même, il ne pensait pas que l'autre serait son héritier. Il pensait que c'est Eliezer qui serait son héritier. Bien, alors, les anges finissent par cracher le morceau, ils sont des anges. Et quand Michaël annonce que Sarah va avoir un enfant, alors Sarah, a priori, elle rit. Alors, on ne sait pas très bien quelle est la qualité de ce rire. Alors, on va lui faire reproche, on va voir exactement quel reproche, mais d'avoir ri. Et c'est un peu étonnant parce qu'auparavant, quand Hachem a dit à Abraham qu'il aurait un enfant, il a aussi ri. Et lui, on ne lui a pas fait de reproche. Donc, il y a ici un traitement différencié des hommes et des femmes. Elle, elle rit, on lui fait des reproches. Lui, il rit, mais on ne lui fait pas de reproches. Alors, bon, on va toujours peut-être dire que ce n'est pas le même rire. Enfin, bon, c'est quand même un rire. Rashi, le pasouk dit, on y parle de cette annonce faite donc à Sarah, il lui dit, Vayomer, il lui dit, Shov Ashov Elecha, Kaet Chaya, Vine Ben de Sarah Ishtecha. Je reviendrai donc dans un an à la même date, et voici, Sarah aura un enfant. Sarah, ta femme, aura un fils. Et Rachid dit, Shov Ashov, revenir, je reviendrai. Alors Rachid dit, Lo bisro malach, shi ashuv elav, elav shel makom amarlo. C'est pas lui qui annonce. Il est chargé par Hachem d'annoncer à Sarah qu'il va revenir, que dans un an, elle aurait un. Donc certains posent la question, et a priori, pourquoi il lui dit un an? Pourquoi il ne dit pas 9 mois? Alors, il y en a qui disent, je ne suis pas tout à fait sûr de l'affaire, mais qui disent que comme Sarah, elle a un dîme de Guillorette, lors du converti, Abraham aussi, elle est le premier converti. Bon. Et un converti, quand a priori, il a besoin de 3 mois de Afrana pour faire la différence entre la conception quand il était goy et quand il était. Donc, ça fait 9 mois plus 3 mois de vérification pour que ce soit bien clair. Ça fait 12 mois. C'est pas tout à fait sûr, mais bon, c'est pas mal comme, si c'est vrai, c'est bien. Bon, si vraiment il faut attendre, si vraiment elle avait un dîme de Guillorette à ce point-là qu'il faut attendre 3 mois, etc.
On dit qu'elle appelle ça va.
Oui, alors bon, là, ce serait une nouveauté, c'est là qu'il faut 3 mois pour fabriquer un utérus. Alors voilà, Vatitzrak Sarah Bekirba. Sarah a ri dans son sein pour elle-même, donc. Les morts, en se disant, Achare Beloti, Aitali Edna, va donner Zaken. quel rite? Elle dit, voilà. Et tout à coup, en vérité, elle est redevenue Nida. Donc, quelque part, ça veut dire aussi que, bon, il y avait la fabrication de l'utérus s'est faite à ce moment-là. Parce qu'elle a ses règles, donc. J'étais déjà ménopausé depuis longtemps. Peut-être que j'ai jamais eu de règles, quoi. Et elle dit ensuite, va à Denise Aken, et mon mari, il est vieux, hein. Alors d'abord, Hachem, quand il va lui reprocher de, il va dire à Abraham, Namazet Sahaga Sarah, les morts, Afomna Meled Vanizakanti. Donc Hachem dit que, elle a dit, je suis vieille. Donc Hachem, il a changé. Elle n'a pas dit, je suis vieille. Elle a dit, mon mari est vieux. Elle n'a pas dit qu'elle était vieille. Mais Hachem, quand il dit à Abraham, il lui dit qu'elle a dit, elle a dit, je suis vieille. C'est de là on apprend que pour Shalom Bayit, on peut mentir. C'est aussi le chesed, n'est-ce pas? C'est un chesed pour le couple, quoi. Alors bon, la question c'est pourquoi est-ce qu'elle rit? Maintenant, en vérité, elle ne devrait pas rire, puisque elle voit bien qu'elle est tout à coup, elle est enceinte, elle est Nida. Donc tu vois bien que ça se change. Elle rit après avoir constaté que voilà, ça y est, elle a ses règles. Donc, ça devrait lui donner confiance, et pas rire. Rachid dit que qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est Nida, parce que Nida, ça la rend impure. Et donc, le pain qu'elle a fabriqué, la pâte est devenue impure, puisqu'elle a touché la pâte. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il ne leur sert pas de pain. Alors, il n'y a pas de pain. Et le pain, il est devenu tamé. Elle aurait dû reconnaître que dit le Malach, bon, ça commence à être un peu vraisemblable. C'est en train de se réaliser, là. Il faut dire que Rav Volbe, il avait dit là-dessus qu'il faut dire que l'annonce, elle a été faite avant le moment où il fallait amener le pain. On s'est aperçu qu'elle était là parce que le pain ne pouvait pas être amené. Maintenant, on peut aussi se demander pourquoi c'est à Abraham que la question est adressée. Pourquoi Sarah rit? Je demande à Sarah pourquoi tu demandes à Abraham pourquoi elle rit. Bon, c'est marqué Vayomer Hachem el Abraham, Lamazet Sarah. Pourquoi Sarah rit? Alors il demande, Aïpalem Hachem Davar, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour Hachem? La Moed Hashum Elecha, Ket Chayav Saraben. Le Ramban dit sur Aïpalem Hachem Davar, est-ce que quelque chose est impossible pour Hachem? Ramban dit, Im Davar Nifla Verachoku. Sheyeh me et Hashem kacha, Belachon qui mimcha akol ou miyadcha natnu lecha. Le Ramban, il apprend ici que Pele, les choses super étonnantes, ça vient d'Hachem. Pele, la pria, c'est une des formes d'anaga d'Hachem. C'est une façon de gouverner le monde par Hachem, en faisant des choses extraordinaires. On dit Nora, on dit la fila, on dit Nora Teilot, Osefele. Il est terrible dans ses louanges, en fait. Faut mentionner qu'il est terrible. Osefele. Il fait des choses extraordinaires. Le Rav Volpe, il avait dit dans le shiur que Pele, c'est la. C'est dans les midot d'Hachem, c'est la plus élevée. Et dans la correspondance avec les sphirot, c'est Keter. C'est la couronne. C'est la plus élevée des sphirot. C'est écrit comme ça dans le Tomer Dvora, l'ouvrage qui parle justement des midot en question. Vatrachesh Sarah. Sarah, elle a nié en disant, j'ai pas ri. Bon, le Ramban dit en vérité, Akadosh Baruch Hu l'accuse auprès d'Abraham. Pourquoi est-ce que la chose lui paraît comme impossible? Elle aurait dû le croire, simplement. Ou au moins, elle aurait dû dire Amen. Donne une bracha, bah, dis Amen. On voit ici que l'importance, la grandeur de l'accusation qui est posée ici contre Sarah, elle ne sait pas que ce sont les anges. Elle pense que ce sont des hommes. Et donc ils lui font une bracha un peu exagérée. À une femme, on lui souhaite d'avoir les enfants. Est-ce qu'on souhaite ça à une très vieille dame? Je sais pas. Alors, elle s'est moquée. Et ça veut dire deux types qu'on connaît, ni d'Ève ni d'Adam, qui ne nous connaissent pas du tout, et qui viennent me faire une bracha de ce genre-là, c'est n'importe quoi. C'était logique qu'elle se moque un peu. Néanmoins, le Ramban dit qu'elle aurait au moins dû dire Amen. Alors là, c'est un peu compliqué. Comment on peut expliquer qu'il faut dire amen à quelque chose qui paraît complètement saugrenu, quoi? Pareil, c'est comme, c'est presque se moquer d'elle, qu'on entend. Tu dis à une vieille dame de 90 ans, tu auras un enfant l'année prochaine. D'accord, même si elle a congelé les ovocytes. D'accord, 90 ans, c'est quand même pas évident, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais le Ramban, il dit non, elle aurait dû dire Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au ciel, en quelque sorte, en haut, on ne s'occupe pas de l'âge, de la condition physique, etc. Quelque part, ce rire, ça peut être considéré comme un manque d'émouna, un manque de confiance. Il est marqué dans Chazal, dans la Gemara, dans Brachot, c'est-à-dire que même si un homme se trouve dans une situation où quelqu'un a placé son cou un glaive, il n'a pas le droit de ne pas demander à Hachem Rachamim. Demandez. L'expression, c'est Alimana Atzmo Mina Rachamim. Il n'a pas le droit de se priver, en quelque sorte, du Rachamim. Je dis ça parce que, a priori, ça ressemble à un miracle, non? Or, on ne peut pas prier pour un miracle. Donc, il ne faut pas penser que c'est une prière. C'est dans sa émouna, là. C'est possible. Les choses sont possibles. Ce n'est pas une prière. C'est ne pas exclure dans sa tête que bon, tout est possible. Le type qui tient le glaive, là, il peut mourir d'une crise cardiaque. Bon, il ne passera rien. Donc Sarah, elle a menti. Alors le prophète Ephraim, il dit, dans le passage, c'est marqué juste après. C'est marqué après l'histoire, là, c'est marqué Veyakumu Misham Anashim. Les gens se sont levés, ils sont partis. Ils sont partis en direction de Sdom pour régler le problème de Sdom. Alors le prophète Ephraim dit, ils sont partis parce que les malachim, ils peuvent pas rester en présence d'un mensonge. Comme elle a menti, ils s'en vont. C'est dit sur les malachim. Vous savez, ça fait penser à quand la Gemara, elle raconte que il y a Arba, quatre personnes, quatre Tanaïm, en fait, qui sont entrés dans le Pardès. Ils sont entrés, ils ont fait un trip, je sais pas dire comme ça, spirituel. Et Rabbi Akiva, qui est un des quatre, avait dit aux autres, il a dit, écoutez, vous allez voir quelque chose, vos yeux vont voir de l'eau. Voir qu'il y a de l'eau qui coule. Ne dites pas que c'est de l'eau. Parce que c'en est pas en réalité. C'est une illusion d'optique. C'est un marbre tel que quand on passe devant, on a l'impression que c'est de l'eau qui coule. Les yeux voient de l'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est une illusion d'optique. Alors Rabbi Akiva, il dit, ne dites pas, il faut pas le dire. Je vous avertis pour que vous ne le disiez pas. Parce que là où vous serez à ce moment-là, ça pardonne pas un mensonge. C'est faux, quoi. Vous dites que c'est de l'eau, c'est pas de l'eau. Ça pardonne pas. Enfin, ça les a pas sauvés tellement les autres, mais en tout cas, c'est pas avec ça qu'ils sont, sont tombés, quoi, qu'ils ont, que ça n'a pas marché. Donc, là aussi, c'est comme, c'est un monde, ça c'est, notre monde à nous, c'est un monde, Alma de Chikrin, c'est un monde du mensonge. Bien avant les fake news, etc. Il y a du mensonge. Et dans le, en haut, dans le monde d'Hachem, en quelque sorte, il n'y a pas de place pour le mensonge. Et donc, même quelque chose qui n'est mensonger que parce que, Hachem nous a fabriqué telle sorte que quand on voit ce marbre, quand on marche le long de ce marbre, on voit la même chose que si on marchait au bord d'une rivière. On n'est pas fautif. Hachem nous a fait de nous des gens qui ne peuvent pas voir ça sans le prendre pour de l'eau. C'est pas qu'on a mal vu, etc. C'est faux. Mais c'est la condition humaine qui fait qu'on croit que c'est de l'eau. Alors tout ce qu'il y a, c'est pour savoir s'il ne faut pas le dire. Tu sais que ce que je vois là, ça me donne l'impression d'être de l'eau. Je vous avertis que c'est pas de l'eau. C'est un, voilà, Rabbi Akiva. D'où il le savait, je sais pas. Je sais pas si il avait déjà fait le trip tout seul ou avec d'autres, on ne sait pas. En tout cas, lui, il le sait. Il sait qu'il faut pas le dire et il le renseigne de ne pas le dire. Là, ici aussi, hein, si on tient que effectivement les anges s'en vont tout de suite, parce qu'il y a eu du mensonge qui a été dit. Bien qu'en réalité, c'est pas très évident que c'était un mensonge. Certains veulent le lire interrogatif, etc. Il y a toutes sortes de façons d'essayer de rattraper les choses, quoi, et de dire. Mais enfin, dans le texte, c'est marqué qu'Hachem dit, mais pourquoi elle pleure? Pourquoi elle rit? Donc, si Hachem dit qu'elle a ri, elle a ri. Et donc, ils s'en vont, et ils vont détruire Sdom. Alors, quand ils sont partis de chez Abraham, Abraham les a accompagnés. Et là, c'est du chesed. Et là, on apprend aussi la loi. Il faut raccompagner les invités. Il y a une mitzvah de Nevaya, d'accompagner. Donc, Abraham, il part avec eux. Et en fait, en réalité, Abraham, il doit se demander. Ils sont venus à trois, il n'y en a que deux qui ont parlé, il y en a un qui n'a rien dit du tout. Et maintenant, ils vont dans cette direction-là. Mais il n'a pas osé demander. Mais il ne sait pas pourquoi ils sont. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est venu manger avec les autres? Il a quoi? Alors. Tout à coup, c'est Hachem qui s'interroge. Hachem dit, est-ce que je peux me permettre de ne rien dire à Abraham de ce que je vais faire? Est-ce que je ne suis pas obligé de dire à Abraham que je vais détruire Sodome? Pourquoi il serait obligé? Parce que, en fait, Hachem, il a dit à Abraham que toute la terre était à lui. Donc, sur la terre d'Israël, il y a Sdom. Sdom, Amora, il y a quatre villes qui vont être détruites. C'est des villes qui appartiennent à Abraham. Donc, il faut lui dire. Mais c'est pas à ce titre-là qu'il le dit. Il dit, il faut que je lui dise. Pourquoi? Parce que Abraham, il va devenir un grand peuple. Il va voir. Et je sais que le man acharit savait de banav et de beto harav Le Shamru derech Hashem la sot tzedaka ou mishpat, le man avi Hashem el Avraham, et Asher diber alav. Je sais, dit Hashem, qu'Avraham va ordonner aux gens de sa maison, ses enfants, aux gens de sa maison, d'après lui, et ils vont continuer d'aller sur ce qu'on appelle derech Hashem, la voie d'Hashem, et ils vont faire tzedaka et mishpat. Et c'est grâce à cela, je vais pouvoir amener sur Abraham ce que je lui ai promis. Donc ici, c'est un vort très fort. Bon, est-ce que ça veut dire ici que pour pouvoir amener la promesse, réaliser la promesse qui a été faite par Hachem à Abraham, il faut que ses descendants suivent le chemin d'Hachem. Et qu'est-ce que c'est le chemin d'Hachem? C'est Daka ou Mishpat. Or, justement, Tzedaka et Mishpat, ce sont deux choses qui sont interdites à Sdom. Et la raison pour laquelle Sdom est détruit, c'est parce qu'ils ont même légalisé, en fait, cet interdit de Tzedaka et cet interdit de pratiquer le Mishpat. En fait, ils ont un Mishpat, ils ont fait des lois. Mais des lois, c'est des lois, comme on dit, des lois iniques, quoi. Des lois qui interdisent l'hospitalité. Des lois qui disent que si quelqu'un est couché dans un lit et que ses pieds dépassent, on va couper les pieds parce que c'est dommage. D'accord? Et s'il est dans un lit et le lit, ils sont trompés, ils ont mis le lit du général de Gaulle, ben on va les tirer pour qu'il occupe tout le lit. C'était de la torture, etc. Il y a une fille qui a donné un morceau de pain à un mendiant. Ils l'ont enduite de miel et ils l'ont mise dans une ruche, quoi. Donc, elle est morte. C'était la loi à Sdom. Une loi qui interdit justement Tzedaka et Mishpat. La tzedaka, bon, très souvent les gens, je ne sais pas pourquoi, ils traduisent tzedaka par charité, et dans tzedaka, il n'y a pas de connotation de cœur. Ce n'est pas la charité. Dans tzedaka, c'est la racine, c'est tzedek. Tzedek, c'est la justice. C'est quoi la tzedaka? La tzedaka, c'est remettre les choses telles qu'elles soient un peu plus justes, quoi, qu'il n'y en ait pas un qui a beaucoup et l'autre qui a pas. C'est être sensible au manque de l'autre et aller faire en sorte qu'il ait ce dont il a besoin. Et le Mishpat, c'est c'est-à-dire respecter les lois de l'Hachem, les lois de la Torah. Mais ça, c'est une condition sine qua non pour bénéficier de toutes les brachot qu'Hachem et d'avoir la terre, quoi. Que Hachem a donné à Abraham pour Abraham et pour sa descendance. Et Hachem dit, je sais qu'Abraham, il va enseigner ça. Il va l'enseigner. Et par conséquent, c'est fondamental qu'il l'enseigne, parce que les gens vont demander, et c'est quoi cet endroit-là où rien ne pousse? Parce que quand Sodome et Amora vont être détruites, chez nous, c'est marqué seulement qu'il y a du soufre et du feu qui descend. Mais dans Nisavim, je crois. Oui, dans Nisavim, il y a aussi du sel. Et donc, avec le sel, rien ne pousse, quoi. Et donc, les gens vont demander pour comment ça se fait qu'il y a des endroits où rien ne peut pousser. C'est pas Hachem, a priori, il est généreux. Pourquoi il a fabriqué des endroits où rien ne pousse? Donc il faudra expliquer pourquoi Sdom et toutes ces villes-là, elles ont été détruites. Il faudra leur expliquer qu'en vérité, c'est parce qu'ils pratiquaient pas c'est d'accord, Mishpat. Donc, important qu'Avram leur enseigne à pratiquer, veiller qu'ils pratiquent le Tzedaka et Mishpat. Si jamais quelqu'un pose la question, on dit voilà, on vous a enseigné ça parce que c'est fondamental, c'est que tellement fondamental que si c'est absent, voilà ce que ça donne comme monde. C'est un monde complètement stérile, quoi. Donc il va le dire à Abraham. Alors maintenant que Hachem donne cette information à Abraham, lui, Abraham, il se pose une question. Pourquoi Hachem me tient au courant? Pourquoi Hachem, il fait ce qu'il veut, Hachem? Pourquoi il me tient au courant de ce qui va se passer avec Sdom? Je sais bien que Sdom sont des pourris complètement. Mais bon, à la limite, je peux très bien comprendre que Sdom mérite d'être détruite. Alors, il se demande pourquoi est-ce qu'Hachem me le dit. Et là, il se dit, bah, si Hachem me le dit, c'est pour que je réagisse. Qu'est-ce que je peux faire comme réaction? Ben, la réaction, c'est que il y a un problème éventuellement d'injustice. Peut-être que tu vas tuer les tzadikim, c'est pas des innocents, mais les tzadikim en même temps que des rechaïm. Ouais. Qui dit que peut-être il y a des tzadikim dans la vie. Et ça, c'est, je sais pas comment vous l'entendez. Ça veut dire quoi qu'il y a des tzadikim dans la ville? Et il voudrait dire que pour ces tzadikim, il faut sauver la ville, n'est-ce pas? On va pas détruire la ville parce qu'il y a il y a 45, 30 tzadikim dans la ville. Pourquoi il faudrait ces gens-là, s'ils sont tzadikim, ça fait, ils sont tzadikim. Ils n'ont pas d'impact sur la ville. La ville est toujours aussi mauvaise, aussi pourrie, d'accord? Même si elle contient des tzadikim, ils sont là, ces tzadikim. Visiblement, ils n'ont pas d'impact sur la ville. Alors, éventuellement, ce qu'on pourrait penser, c'est qu'il faut faire sortir les tzadikim de la ville. D'accord? Abraham, il est allé à l'extrême. Il dit qu'il faut sauver la ville à cause d'eux. Pourquoi il n'a pas demandé s'il y a des tzadikim, ben, faut les sortir. On les fait sortir, on détruit. On détruit ce domaine moral, non? Qu'on n'envisage pas de sortir. Et pourquoi est-ce qu'on sauverait la ville? Parce qu'il y a des tzadikim. C'est des tzadikim qui ont. La ville, elle est toujours. Elle est pourrie. Hein. Ils ont pas du tout. On devrait sauver la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Parce qu'il y a des tzadikim qui n'ont aucun impact. Il y a un problème de justice. Ce qu'Abraham soulève comme problème, c'est que visiblement, si Hachem va détruire toute la ville, et s'il y a des tzadikim dedans, il va pas les sortir. Ça, c'est sûr qu'on va pas les sortir. Ils vont pas être traités différemment des gens de la ville. Ou bien on sauve la ville à cause d'eux, ou bien ils périssent avec la ville. Quel est le problème alors? Le problème, c'est que tu vas tuer en même temps les tzadikim et les rechaïm. Donc, si tu détruis la ville, les tzadikim et les rechaïm vont mourir en même temps. Ils vont être traités de la même manière. Et ça, c'est pas possible. Même si ces tzadikim n'ont pas eu d'impact, mais il doit y avoir une hiérarchie. Tu peux pas les sauver, tu peux pas les traiter différemment. Pardon, tu peux pas les traiter de la même manière alors que les uns sont des rechaïm et les autres des tzadikim. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est une injustice flagrante. Alors, bon, il négocie et il s'arrête à 10. On ne sait pas en vérité ce qui s'est passé. Hachem n'a pas répondu. Et s'il y avait 10, je pourrais les 10 aussi, mais sous-entendu, alors quoi, il y a 10 ou il n'y a pas 10? Priori, il n'y a pas 10. Mais alors, s'ils sont pas 10, il est très possible qu'il y en ait 8. Alors le problème de ben, ils vont mourir avec les autres, c'est toujours insupportable comme idée. Donc on a presque l'impression que ça marche seulement s'il y en a zéro. S'il y a zéro de sadique, alors ça va, il n'y a pas de contradiction. Mais Abraham, il n'a pas discuté à moins que 10. Il discute pas. C'est-à-dire que il faudrait que les 10 fassent un minyan, quoi. Il faut que ça soit un vrai groupe, quoi. Donc, on va détruire. Et Hachem dit, enfin, on va sauver Lot. Et on va sauver avec Lot ses deux filles. Les deux filles qu'il avait proposées, vous vous souvenez que quand les Malachim sont arrivés chez Lot, Lot les a fait entrer, il a fait l'hospitalité. Il a appris chez Abraham. Il propose, donc il est hospitalier, il fait entrer. Immédiatement, toute la populace se rassemble devant la maison de Lot, et ils disent à Lot, donne-nous ces deux personnages-là, qui sont venus chez toi, pour qu'on les connaisse. D'ailleurs, ils ont un projet de coucher avec eux. Et toute la ville va leur passer dessus. Alors Lot, il dit non. Pas possible, c'est mes invités. Mais il est quand même un peu spécial, il propose de donner. Voilà, je vous donne deux filles, mes deux filles. Est-ce que vous voulez? C'est des restes un peu spéciaux, quoi. Elle n'a pas appris ça chez Abraham. D'abord parce qu'Abraham n'a pas de filles, mais bon, pas pour ça. Bon, il y en a qui disent qu'elle avait, oui, une fille. Alors, c'est compliqué. Ouais, mais les anges n'ont pas laissé faire. Les anges, ils ont... L'autre était allé sur le pas de la porte pour pas que la populace entre chez lui et viole ses invités. Donc, il était en danger. Eux, ils l'ont pris, ils l'ont rentré, ils ont bloqué la porte. Et ils ont aveuglé les gens, ils ne trouvaient plus la porte, ils sont partis. Et puis, du coup, ils ont pris ses deux filles, Lot et sa femme. Il y a une Gemara, à la fin de Brachot, qui dit que quand quelqu'un a eu un S à un certain endroit, il doit, quand il repasse à cet endroit-là, il fait une bracha, il m'a fait un miracle à cet endroit-là. Et à l'échelle collective, la Gemara fait une liste d'endroits ou de situations. C'est-à-dire que si tu te trouves au bord de la mer Rouge, si tu trouves, si tu trouves la pierre sur laquelle Moshe Rabbeinu était assis quand il a au moment de la guerre contre Amalek, ben, toutes sortes de choses, et qui sont des endroits où si on les voit, il faut faire une bracha. Et dans la liste, il y a quelque chose de très étrange. Quand Lot et sa femme et ses filles sont sortis de, ont été sortis de Sodome, le malach, qui les sortait de là-bas, leur a dit que, voilà, il fallait se dépêcher pour arriver, se protéger, et qu'ils n'avaient pas le droit de regarder en arrière. Si tu regardes en arrière, tu vois la destruction de Sodome. Et eux, ils n'avaient pas de mérite de voir, c'est un certain mérite de voir que le mal est détruit, de pouvoir le voir, ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit de se retourner. Mais la femme de Lot, elle s'est retournée et elle a été changée en statue de sel. Et il y a un endroit où les guides touristiques disent c'est ça la statue de sel. Et la femme de Lot. Alors pourquoi elle s'est retournée, il y a toutes sortes d'explications. Mais le grand problème, c'est pourquoi on fait une bracha là. Pourquoi on fait une bracha là? On n'est pas les descendants de Madame Lot. Alors, en fait, parce que Madame Lot s'est retournée et qu'elle est plus là, à cause de ça, les deux filles de Lot vont se retrouver dans le désert, quoi, quasiment. Elles vont penser que elles sont les seules survivantes du monde et qu'il leur incombe d'assurer la pérennité de l'espèce. Et du coup, cette fois-ci, c'est elles qui vont utiliser leur père. Elles vont donc l'enivrer et elles vont coucher avec lui pour avoir des enfants, pour assurer la pérennité de l'espèce. Parce qu'elles pensent qu'elles sont les dernières survivantes. Et les deux ces deux femmes, elles vont être enceintes de leur père. Elles vont toutes les deux avoir un garçon. Elles vont nommer l'une Moab et l'autre Ammon. Et Ammon et Moab, ça va donner des peuples. Et ces peuples-là sont des Rechaïm Gmourim. Je dis vraiment, c'est des Rechaïm. La Gemara, elle raconte que au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, le Navi, il a annoncé qu'il allait y avoir toutes sortes de tragédies, etc. Et eux, ils sont allés dire, ils dire à Nebuchadnezzar, tu peux attaquer maintenant, parce que même leurs prophètes ont dit que c'est un bon moment pour attaquer. On allait chercher Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth-Amikdash. Mais d'un autre côté, le Mashiach, il descend d'eux. Moab, ça produit Ruth, qui est l'arrière. Et Ammon, ça produit une des femmes de Shlomo HaMelech, la mère de celui qui va être le continuateur de Shlomo. Parce que le Mashiach, il est un descendant de David. Mais David, il avait beaucoup d'enfants. Le Mashiach, il est un descendant de David et de Shlomo. Et Shlomo aussi, il avait beaucoup d'enfants. Et c'est aussi la Ammonite, la Naama Ammonite, qui est une femme de descendante d'Ammon, qui est une femme de Shlomo, et qui est c'est elle l'ancêtre, le Mashiach, qui passe par elle. Donc c'est à la fois des très mauvais, et à la fois le Mashiach passe par elle. Alors certains veulent mettre bout à bout tout ça pour expliquer pourquoi on fait une bracha comme si on a fait un nes. C'est quoi le nes? Le miracle. Le miracle. Il y a eu un miracle ici, à cet endroit, qui est que l'autre a été sauvé. En fait, c'est ça la bracha qu'on fait. C'est sur le sauvetage de l'autre. Alors, pourquoi on le fait sur la. À l'endroit de la statue de sel, sa femme en sel, c'est parce que on connaît pas le chemin de Sodome jusqu'à la ville dans laquelle Lot s'est réfugié au moment de après en sortie de Sodome, il a dû aller quelque part. Il est allé à un endroit et on connaît pas le chemin. C'est sur ce chemin qu'on devrait faire la bracha, mais on le connaît pas. La seule chose qu'on sait de ce chemin, c'est qu'à un moment donné, la femme a été changée en statue de sel, et donc on fait la bracha à cet endroit-là, pas à cause de la statue de sel, mais parce que c'est marqué, Bamakomazé. Hachem a fait un miracle à cet endroit-là. Il faut pouvoir dire cet endroit. Alors, grâce à elle, on peut dire l'endroit, puisqu'on sait qu'elle, elle était évidemment sur la trajectoire, puisque elle a été changée en statue de sel à un moment donné. Donc, on veut faire, c'est pas qu'on fait la bracha sur elle, mais on fait la bracha à cet endroit-là, parce que c'est le seul endroit dont on est sûr qu'on peut dire que l'autre a été sauvé à cet endroit-là. Alors, dans la discussion d'Abraham Avinu pour essayer de sauver Sdom, à un moment donné, Abraham s'est en quelque sorte excusé d'insister, de revenir à la charge, 50, 45, 40, bon, il m'a sauvé quelques-uns, heureusement, sinon, d'accord, jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Et à un moment donné, il y a il a répondu à ce qu'Hachem lui avait dit qu'il n'y avait pas assez, donc il a dit, Hinena, oaltil daber el Hachem, vanochi afar vaefer. J'ose parler encore alors que je ne suis que poussière et cendre. Alors Rachid dit, pourquoi il dit qu'il est poussière et cendre? Il dit, Rachid dit, de quoi haïti raou afar al yedem. En réalité, j'aurais dû être poussière dans la guerre contre les rois. Il a fait la guerre contre les rois qui étaient 100 000, qui étaient infiniment plus nombreux que lui. J'aurais dû être réduit en poussière. D'une part. J'aurais dû être en cendre, parce que Nimrod il m'a jeté dans la fournaise, j'aurais dû être en cendre. Si tu n'avais pas eu pitié de moi et si tu ne m'avais pas sauvé. Alors le Rav demande. Pourquoi est-ce que Rachid juge nécessaire de nous dire pourquoi il a choisi cendre et poussière? Et que c'est historiquement dans sa trajectoire. Il dit, j'aurais dû être poussière à cause de la guerre contre les rois, j'aurais dû être cendre à cause de Nimrod qui m'a jeté dans la fournaise. Pourquoi ne pas dire de façon beaucoup plus simple que Avraham, il a pris une image de quelque chose qui est rien du tout, aussi, etc. C'est l'expression de sa anava, de son humilité. De là, on voit que de dire je ne suis rien, etc., c'est des bêtises. Il faut reconnaître ce qu'on est, mais pas en tirer de l'orgueil, etc., mais je suis ce que je suis. Et dire, Anochi, Ploum, je suis rien du tout, Afar, Efer, c'est pas de l'humilité. Lui disait, c'est de la bêtise. Parce que c'est ne pas tenir compte de la réalité. Anava, l'humilité, c'est que l'homme reconnaît, y compris ses qualités, mais il sait qu'il n'est pas, que toutes ces qualités-là, c'est les doigts à Hachem. Mais il reconnaît les qualités, il ne dit pas je suis rien du tout. Les qualités ont été, c'est des qualités qui sont données par Hachem. Et comme elle s'est donnée par Hachem, il n'y a pas de raison de s'enorgueillir d'avoir ces qualités-là. Et donc, on vient, donc, fait détruire le Sodome, Amora, les quatre villes, là, l'endroit. D'avoir fait pleuvoir sur ces villes, du soufre et du feu. Bien. Alors, il faut bien juste se rappeler que c'est marqué Vahi, le Shachet et le Kimet, Aré Akikar, quand Hachem a détruit les villes autour de Sodome et Amora et autour, c'est marqué Vahizkor Elohim et Abraham. Abraham s'est souvenu, Elohim s'est souvenu d'Abraham. Vaishlach et Lot, mitocha afecha, vaafoch et harim, asher yashav bahen Lot. Donc, s'est souvenu d'Abraham et il a sorti Lot. On sait bien, on aurait dû dire, il aurait dû se souvenir de Lot, non? Même si c'est le mérite d'Abraham, mais de qui il se souvient? Non, il se souvient pas de. Rachid dit, Vaizkor Elohim et Abraham. Alors il demande, Maus schirato shel Abraham al Lot. Ça veut dire, il se souvient d'Abraham pour Lot. C'est sur 19-29. Il s'est souvenu que Lot savait que Sarah était la femme d'Abraham. Et il a entendu Abraham en Égypte dire à Sarah, dis que tu es ma sœur, sinon ils vont me tuer et ils vont te prendre dans le harem. Et il aurait pu dire, bah, Sarah, c'est sa sœur, c'était vraiment sa sœur. Et par conséquent, si il avait dénoncé Abraham, on aurait tué Abraham, et lui, il aurait, en tant que frère, il aurait été couvert de cadeaux. Il en a déjà reçu beaucoup, mais il aurait été couvert tout seul. Et il n'a rien dit. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, dit Rachid, a eu pitié de lui. La sortie, quand on dit s'est souvenu d'Abraham, s'est souvenu du fait que il a aidé Abraham, Lot a aidé Abraham à survivre là-bas. Voilà, on s'arrête là.